Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans la première émission d'une série de perspectives scientifiques consacrées aux médicaments, Émile Noël recevait le 18 mars 1996 Pierre Potier de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette. Cette série faisait le point sur l'importance des substances naturelles, non seulement dans la pharmacopée d'hier, mais aussi dans la recherche de pointe, consistant à découvrir dans la nature des produits bénéfiques à la santé de l'homme, des animaux et des plantes. Où il sera question de pavot, d'opium, de morphine, de l'if, des feuilles du parc du CNRS, de la poudre des jésuites, de la pervenche de Madagascar.
Pierre Potier, on pourrait s'étonner de la présence au CNRS d'un institut de chimie des substances naturelles. C'est l'intitulé d'un lieu de recherche de pointe que vous dirigez à Gif-sur-Yvette. Et dans le sens commun, les médicaments actuels sont, comme l'on dit, des produits chimiques, c'est-à-dire de synthèse, donc artificiels. En fait, il n'en est rien, comme nous allons le voir. Nous allons d'abord jeter un regard en arrière pour mieux saisir le lien de la pharmacie contemporaine avec ce qu'il est convenu d'appeler la nature. Parce que cette nature, si je vous en crois, a été pendant très longtemps la seule officine, d'où d'ailleurs le titre de notre premier entretien, la pharmacie du Père Bon Dieu.
C'est clair que depuis des millénaires, l'homme a tiré non seulement sa subsistance, ses vêtements et tout de quoi chauffer de la nature qui l'entourait. Il y a également trouvé ce qui lui permettait de se soigner. Et pratiquement encore maintenant, la thérapeutique moderne utilise 80% de ces médicaments qui sont d'origine naturelle. On y reviendra un peu plus tard. L'homme, au cours de son existence, a donc pu, en cueillant telle plante, telle feuille, telle racine, tel animal, il a pu sélectionner les produits naturels qui faisaient quelque chose aux maux dont il souffrait. Si, par exemple, il avait mal à la tête, pour des tas de raisons, il a pu sélectionner des produits qui le soulageaient de ce mal de tête. Il a pu, par exemple, aussi sélectionner au cours des ans le pavot comme source d'opium. Et l'opium constitue depuis 4000 ans quelque chose qui est utilisé en particulier contre la douleur, mais également pour un certain nombre d'autres utilisations en tant que toxique et que drogue addictive, c'est-à-dire
euphorisante.
Pour faire euphorisante, pour voir, comme on dit un peu vulgairement, des éléphants roses. Bien, tout ça a été fait selon la règle de ce qu'on appelle les essais-erreurs. Évidemment, il n'appelait pas ça comme ça. Mais quelqu'un qui mangeait un peu trop de belladone passait l'arme à gauche, comme on dit. Bon, alors on s'était également aperçu que, par exemple, la même plante, la belladone, les feuilles de belladone, mises dans de l'eau et instillées dans les yeux, dilatait la pupille, d'où le nom d'ailleurs de belladonna en italien qui signifie la belle dame, parce que ça lui donnait des yeux de braise. Ces affaires-là ont suivi l'évolution de tout le reste, la science est arrivée, alors qu'avant il y avait un peu des croyances comme on retrouve à l'heure actuelle dans certaines peuplades pas très développées, les sorciers sont là. La plante est considérée comme une entité magique. Ça n'est qu'au XIXe siècle, les progrès de la science aidant, que l'on s'est imaginé pour la première fois qu'une plante était active parce qu'elle devait renfermer ce que l'on a appelé un principe actif.
Oui, parce que on a du mal, enfin, à comprendre le processus. Bon, les systèmes essais-erreur. Initialement, c'était pas systématique, donc c'était une rencontre de hasard. Et par ailleurs, il y avait aussi, me semble-t-il, des ressemblances de formes. qui pouvait faire penser à l'effet de la plante et qui forcément induisait en erreur. Et donc, il a fallu un travail empirique extrêmement long pour déboucher sur cette rationalité que vous êtes en train de décrire.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'antinomie, l'opposition, en quelque sorte, entre les substances chimiques et les substances naturelles. Alors, il faut, à mon avis, bon, c'est vrai hein, dans un certain nombre de cas, il faut tordre le cou à un certain nombre d'idées qui ont été répandues, d'idées toutes faites, et je vais vous en donner un exemple. La noix vomique est une plante qui contient de la strychnine. Et la strychnine est bien réputée pour être un poison violent et utilisée à cette fin, jusqu'à un certain temps, dans les poisons contre les rats et pour d'autres empoisonnements. Bien. Cette strychnine, c'est un produit naturel. On peut maintenant la préparer par synthèse. C'est très compliqué, mais on peut la préparer par synthèse. Donc on a également le produit de synthèse. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il faut faire très attention à cela, que tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon. Bon, Rousseau, c'est une chose, mais la toxicologie, c'en est une autre. Et pratiquement, il faut dire que jusqu'au XXe siècle, ou au XIXe siècle, la plupart des poisons violents étaient des poisons naturels. C'était des substances naturelles. La toxine botulique des Borgia, c'est un produit naturel. La strychnine que j'ai citée tout à l'heure, c'en est une. La digitaline, si vous en prenez trop, ça vous fait pas de bien au cœur, ça vous intoxique et ça vous tue.
Oui, justement, là aussi, dans beaucoup de substances, tout est problème de dosage.
Absolument, c'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est le principe de la toxicologie. Alors ça, c'est une partie de la thérapeutique. On vous dira maintenant que ce qu'on cherche à faire en thérapeutique, c'est de ramener l'état malade à un état de santé, de ramener une cellule qui a commencé, par exemple une cellule tumorale, qui a divergé à un moment donné, de la ramener à l'état normal. Ça, c'est une autre approche thérapeutique. Mais tout ce dont on parle, la pharmacie du Père Bon Dieu, c'est-à-dire cette source extraordinaire et qui n'a pas fini de donner ses secrets, même à l'heure actuelle. Il en sort encore en ce moment des nouvelles substances très intéressantes du domaine naturel. Toute cette pharmacie du Père Bon Dieu, ces sources inépuisables, puisque nous n'avons pas encore examiné plus de 10% des espèces végétales qui croissent à la surface du globe. Pas plus de 10%.
Il semble qu'on s'intéresse davantage aux substances végétales qu'aux substances animales.
Oui, c'est vrai, souvent pour des raisons de commodité. D'abord, parce que quand vous avez une plante, vous la trouvez, si vous ne tuez pas l'arbre ou la plante la fois que vous allez la récolter, vous la retrouvez l'année d'après. Donc il y a un problème de sédentarité. Donc c'est toujours agréable, comme les champignons. Quand on a des girolles dans un coin, on retrouve des girolles généralement si on n'a pas tout saccagé l'année d'après, parce que le mycélium reste dans le sol. Bon, ça c'est une raison. La deuxième raison, c'est que ça sèche beaucoup plus facilement en général que des morceaux d'étoiles de mer ou de coquillages ou même d'extraits animaux quelconques. Donc il y a des problèmes de conservation aussi. Et il y a des problèmes donc du fait que ça sèche relativement facilement. On peut les consommer en dehors de la période de floraison ou tout simplement de fructification ou bien de développement. Donc, c'est pour plus généralement pour des raisons de commodité qu'on s'est beaucoup plus souvent adressé aux plantes. Mais vous pourrez remarquer que l'ère des antibiotiques, qui a commencé pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la découverte de la pénicilline et de tous les autres antibiotiques, ça a commencé parce que la microbiologie a permis de mieux connaître tous ces microbes. Champignons, bactéries qui poussent en présence d'oxygène, qui poussent en absence d'oxygène. Et tous ces organismes vivants ont donné une foultitude de produits, non seulement les antibiotiques, mais on en parlera plus tard, des dérivés qui permettent de contrôler les rejets de greffe, qui ont complètement changé l'aspect, la physiologie et puis le pronostic des greffes d'organes.
On va essayer de faire le parcours tout au long de cette série d'entretiens, depuis ce pavot connu depuis 4000 ans jusqu'à des substances qui ont été révélées plus récemment. Mais peut-être maintenant, ce serait pas mal que vous nous indiquiez, d'un point de vue un peu plus technique, comment est-ce que, bon, on admet qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le plan historique, mais on a quand même là une information suffisante. Comment maintenant un institut comme le vôtre, par exemple, passe de la substance naturelle aux produits, aux médicaments répertoriés et inscrits sur le codex, si j'ose dire. Cela dit, y compris la recherche de la substance naturelle là où elle est.
Oui, alors ça, c'est effectivement tout le programme, une grande partie du programme de recherche de notre institut de chimie des substances naturelles du CNRS à Gif-sur-Yvette. C'est un institut qui existe depuis pratiquement 35 ans. Et le titre Institut de chimie des substances naturelles est toujours d'actualité. Et la recherche qui s'y fait aussi. Nous n'avons pas d'approche différente de celle qu'ont eu nos ancêtres. Simplement, les moyens ont changé. Les connaissances ont changé, mais le moyen de parvenir à une substance intéressante à partir d'une plante déterminée n'a pas changé. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple historique, celui du pavot de l'opium de la morphine, et je vais vous prendre l'exemple de substances antitumorales que nous avons développées récemment, en particulier avec des firmes pharmaceutiques françaises. Alors, le pavot. D'après ce que l'on sait, il y a plusieurs millénaires qu'en Chine et qu'en Égypte, les gens ont utilisé, et probablement en Mésopotamie, les gens ont utilisé le pavot en l'incisant. Ils obtiennent un suc qui brunit un petit peu, qui s'oxyde, qu'on appelle l'opium, et qu'ils soignent leurs douleurs. Ils se sont rapidement aperçus de ça, puisqu'il suffisait de passer la langue sur un pavot qui avait été excisé pour recueillir le suc et évidemment la morphine, on verra ça plus tard, qu'il contient. Et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus de douleur s'ils en avaient, que ça leur procurait des sensations de bien-être, etc., etc. Et pendant des centaines d'années, donc des milliers d'années même, l'opium a représenté la base de la thérapeutique. Et il y avait un auteur anglais qui s'appelait Sydenham, au XVIIe siècle, je crois, qui disait, qui écrivait à l'époque, que le Dieu Tout-Puissant n'a pas réussi à donner à l'homme un médicament plus efficace et plus actif que l'opium. On pourrait pratiquement reprendre cette citation mot pour mot. Alors, il a fallu attendre 1809 pour que un chimiste français et un chimiste allemand découvrent à peu près simultanément la morphine. Parce qu'à l'époque, on a pour la première fois pensé qu'une plante n'était pas active parce que c'était une plante, une divinité ou tout ce qu'on veut, mais grâce au fait que la plante en question contenait un produit ou des produits actifs, qu'on appelait des principes actifs. Et ces principes actifs, dans le cas de l'opium, puisque ça a été la priorité de ce que les gens ont étudié, c'était la base de la thérapeutique, la morphine a été isolée, 1809. Et ensuite, il a fallu attendre un peu plus de 100 ans pour avoir la structure de la morphine.
C'est-à-dire la molécule.
D'avoir sa connaissance, sa photographie. Et il a fallu encore plusieurs dizaines d'années pour qu'on puisse la reproduire par synthèse. Mais à l'heure actuelle, la synthèse de la morphine n'est pas concurrente, du point de vue économique, de l'extraction à partir du pavot et de l'opium. Et beaucoup de gens pourtant ont essayé, parce que vous comprenez bien que si on arrivait à faire de la morphine de synthèse, et en quantité suffisante et à des prix raisonnables, nous n'aurions plus besoin des cultures de pavot. Et que du point de vue de l'attaque des problèmes de drogue, ce serait considérable comme avantage. Vous voyez que tout se tient. La morphine, il faut y aller doucement, parce que vous connaissez les phénomènes d'accoutumance, et c'est pour ça que les médecins l'utilisent, parce qu'ils n'ont pas souvent beaucoup de choses mieux, mais il y a des accidents secondaires, il y a des effets secondaires, non seulement à l'accoutumance, c'est des dépressions respiratoires. Donc il faut faire attention. Alors voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, je vais vous donner celui de l'IF, qui est un arbre connu depuis longtemps. Cet IF est connu, on fait des arcs avec, on sait qu'il est très toxique pour les animaux et pour l'homme. Et vers 1966, les Américains ont trouvé dans une écorce, l'écorce d'un IF du nord-ouest des États-Unis, dans les États d'Oregon et de Montana, que dans ces écorces d'IF, ils ont trouvé un produit qui est un produit extrêmement actif dans le traitement des tumeurs. Je passe sur les détails, mais nous avons aussi des IF. Ce sont ces magnifiques arbres à feuilles persistantes, à aiguilles, qu'on trouve dans les parcs publics avec des jolies baies rouges en automne, dont les oiseaux sont très friands parce que c'est la seule partie qui soit comestible de ces IF, c'est très sucré. Eh bien, nous avons marqué un joli point, en tant que recherche publique ici, et nous avons mis au point un médicament antitumoral qui est développé par l'industrie française, en l'occurrence par la firme Rhône-Poulenc-Rohrer. Comment avons-nous fait ? Les Américains avaient trouvé le produit dans l'écorce de cet arbre, cet IF du nord-ouest des États-Unis. Il fallait donc abattre les arbres pour obtenir le produit. C'était absolument sans issue, ça, parce que ce sont des arbres qui poussent très très lentement, il faut plusieurs centaines d'années pour en avoir un. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on a regardé dans les feuilles. Si par hasard, il n'y avait pas un produit à partir duquel on pourrait préparer le produit antitumoral. Et on l'a trouvé, dans les IF du parc du CNRS de Gif-sur-Yvette.
En plus.
Voilà. Et
Sous nos fenêtres.
Presque sous nos fenêtres. Et ce produit, maintenant, va être mis à la disposition du corps médical. Et c'est un produit remarquable en efficacité. Donc, vous voyez que pratiquement, l'opium d'un côté, là, avec la morphine au bout, les IF de l'autre côté, avec ce qu'on appelle le taxol et le taxotère au bout, on n'a pas vraiment changé, sauf que les moyens ont changé.
Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, les laboratoires comme les vôtres ont les moyens d'analyser les différentes substances naturelles qu'ils vont chercher. Le problème, c'est où aller chercher des substances naturelles ou comment découvrir une nouvelle substance naturelle, puisque maintenant, je suppose, la recherche, ou tout au moins la quête, est systématique.
Elle est systématique, mais heureusement, compte tenu du très grand nombre d'espèces qui se présentent à nous, il faut avoir des éléments de guidage. Alors ces éléments de guidage sont simplement les résultats qu'on a déjà obtenus, soit des plantes qui sont connues traditionnellement pour contenir des substances intéressantes, soit qu'on les ait découvertes récemment. Exemple, il y a des familles botaniques qui sont réputées beaucoup plus riches que d'autres. Les rubiacées, pour ne citer que celles-là, quand je vous dis ça, évidemment, les rubiacées, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la famille du quinquina. Et le quinquina a été une grande découverte par les Espagnols qui les ont ramassés chez les Incas et qui l'ont fait venir en Europe au moment de la conquête espagnole de l'Amérique du Sud. C'est devenu la poudre des jésuites. Ça a permis de lutter contre les fièvres. On en parlera un peu plus tard. Mais la famille des rubiacées, c'est une famille qu'il faut regarder. D'autres espèces que le quinquina, on en a regardé, on a trouvé des choses intéressantes. La famille des apocynacées, par exemple. Vous avez la pervenche de Madagascar qui a donné les substances antitumorales utilisées dans pratiquement toutes les chimiothérapies antitumorales dans le monde depuis 30 ou 40 ans, la vinblastine, la vincristine. C'est la famille des apocynacées. Bien, dans la famille des apocynacées, c'est une famille donc, qui est très riche en substances candidates à des médicaments. La même chose dans certaines souches ou espèces bactériennes. On sait que les pénicilliums, par exemple, ont représenté pendant longtemps une source intéressante de produits de type pénicilline. Et puis, donc, vous êtes guidé à chaque fois. Bien sûr, il faut quand même laisser la place à la découverte spontanée. Donc, on ramasse d'autres plantes et on regarde ce qu'il y a dedans. On est aidé, comme vous le disiez justement tout à l'heure, par le fait que les techniques ont évolué et les moyens ont évolué. Maintenant, on peut faire des essais systématiques. Donc, on peut ramasser beaucoup plus de substances d'origine végétale ou autre, faire des extraits, et ensuite faire des tests pratiquement automatiques, jour et nuit.
Oui, ce qu'on pense, par exemple, il y a un exemple, c'est l'exemple de l'aspirine, où les gens, pensant que les saules qui habitaient près de l'eau devaient aimer l'eau et que par conséquent, ils devaient contenir une substance qui permet de s'adapter, d'où l'idée que ça pouvait peut-être avoir une influence sur les rhumatismes. Et le plus étonnant, c'est qu'en faisant des décoctions de feuilles de saule, on s'est aperçu que ça faisait de l'effet.
C'est vrai, mais ça, je pourrais vous dire que c'est une coïncidence.
Moi,
de la même façon, vous mentionniez tout à l'heure le problème des formes. Si, par exemple, la racine de mandragore a des formes humaines, alors ça peut soit, ou d'autres formes sexuelles, alors ça fait du bien. Ou bien une racine qui est jaune, alors ça, le jaune, ça rappelle la couleur de la bile, donc ça doit être bon pour le foie. Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai. Quelquefois, c'est vrai, dans lequel cas, c'est une coïncidence.
Pour conclure, est-ce que vous pensez que la pharmacie du Père Bondieu a encore un très grand avenir? C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez que le véritable travail de la recherche en pharmacie à l'heure actuelle, c'est effectivement d'explorer le maximum de plantes, ou en disant le maximum de substances naturelles?
Je peux vous faire une réponse qui est basée non pas sur la foi du charbonnier, que j'ai quand même, mais sur l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant dans le domaine de la thérapeutique. Je peux vous dire que la plupart, la très grande majorité des découvertes a été encore maintenant faite par hasard. Et pour prendre des choses récentes, la fameuse cyclosporine qui a révolutionné les pronostics de greffe d'organes a été découverte complètement par hasard. Les avermectines, qui sont des produits antiparasitaires, qui permettent de soigner les parasites du bétail et d'augmenter la production de viande dans les pays qui, etc., par hasard. Et beaucoup d'autres exemples encore, par hasard. Et une fois que vous avez découvert ces choses-là, en général, ça vous fait faire des bonds dans la connaissance scientifique qui sont énormes. Parce que vous essayez de savoir comment ils agissent, ces produits, que le bon Dieu vous a donnés, par surcroît.
C'était Perspective scientifique, 12 clés pour le médicament, la pharmacie du Père Bondieu. Émile Noël recevait Pierre Potier de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette, le 18 mars 1996. Réalisation François Connac.